Autre radio, autre culture, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Dorothée Truchot-Hermand. Bonjour Dorothée.
Bonjour Marion.
Et nous avons également Christophe Bouillot, toujours notre candide.
Bonjour Dorothée, Christophe. Bonjour Marion.
Bonjour Christophe.
Vous êtes gérante de la société Paris Princesse.
Absolument.
Alors qu'est-ce que c'est que cette société ?
Donc c'est une agence de personal shopping et de conseil en style. En fait, j'accompagne la clientèle étrangère de luxe qui vient à Paris dans les différentes boutiques. Et également, je fais du conseil en style pour les femmes étrangères, mais aussi les femmes parisiennes. Et je travaille essentiellement en fait avec la clientèle russe qui vient nous rendre visite. Je les accompagne ici, mais je fais également du conseil en style pour elles à Moscou directement, où je travaille avec un salon de beauté, toujours dans le domaine du luxe, dans lequel je propose différents services pour les sublimer.
Superbe. Est-ce que ça vient de l'imagination de penser qu'il y a énormément de milliardaires russes maintenant ?
Alors, de l'imagination, en fait, pour avoir des données officielles, des milliardaires russes, il y en a une vingtaine. Donc, il n'y a pas non plus de quoi fantasmer. Bon, sauf qu'après, il faut considérer, mettre en regard la valeur de leur fortune. Et là, effectivement, ça peut faire peur, puisque en fait, ils concentrent 80% à peu près des richesses. Non, peut-être pas 80%, mais on va dire une grande partie des richesses. Je serais incapable de vous dire quel est le montant exact. Mais il y a une vingtaine de milliardaires, et on estime à environ 100 000 le nombre de millionnaires.
On dit qu'avec la crise, en un an, le nombre de milliardaires russes ont diminué de moitié.
En valeur, je ne suis pas sûre que ça ait vraiment chuté. Il y a eu un changement de répartition et puis il y a eu un changement de classement. Donc il y a des gens qui étaient dans le top 10, qui étaient à la place 5 et qui ont grimpé, et d'autres qui ont redescendu. Mais en soi, on ne peut pas dire véritablement que c'est cette catégorie qui ait souffert de la crise. Hein. À mon avis, c'est pas vraiment le cas.
Votre société a quel âge à peu près ?
Ma société est toute jeune, c'est un bébé princesse. ma société est toute jeune en fait, j'ai déposé les statuts en début d'année. C'est un projet sur lequel j'ai travaillé depuis presque 2 ans maintenant. Donc il a fallu le temps de monter tout ce qu'on appelle un business plan, de faire des plans sur la comète et puis de travailler sur un financement, de trouver un petit peu d'appui également parce que c'est très difficile de monter un projet seul, voire quasi impossible, sauf quand on a des reins financiers d'oligarques, justement, ce qui n'était pas mon cas. Donc voilà, j'ai déposé les statuts en début d'année, donc c'est effectivement tout jeune.
Est-ce que c'est facile pour une société justement qui démarre de pouvoir contacter une espèce de nomenclatura russe ?
En fait, non. Quand on monte une société, et en particulier en France, tout est difficile. Le plus difficile, c'est pas spécialement la clientèle. Bon, j'avais, de par mon activité précédente, un réseau. Donc, je pouvais déjà prévoir d'avoir des clientes. Donc, c'est pas ma plus grande difficulté. La difficulté, effectivement, d'enrichir un fichier client et d'en assurer la pérennité. Oui, ça c'est très difficile, mais c'est la difficulté de toute société qui a une activité de service ou commerciale. Le plus difficile, non, c'est pas ça. Le plus difficile, c'est tout ce qu'il y a autour quand on décide de monter un business en France, qu'on est une femme aussi, qu'on veut travailler avec une clientèle étrangère, qu'on veut travailler dans le luxe. Tout ça, c'est très dur. C'est très dur. C'est passionnant et c'est, je pense qu'il faut simplement vraiment, quand on entend les gens répéter « Oh là là, c'est dur », j'étais loin de m'imaginer à quel point, parce qu'en fait, il y a des difficultés qui sont administratives, il y a quand même un poids administratif qui est assez lourd ici, même si les choses ont quand même progressé, parce qu'il existe des aides pour les jeunes qui décident de créer des entreprises. Donc, on nous a énormément parlé du statut d'auto-entrepreneur. entrepreneur. En fait, le statut d'auto-entrepreneur n'est pas du tout destiné à des gens qui veulent monter vraiment une SARL, puisque c'est destiné à des gens qui font une activité supplémentaire en plus d'une activité qu'ils ont déjà. Donc, effectivement, on a fait beaucoup de tapage autour de ce statut qui a le mérite d'exister, mais qui est aussi, en fait, la possibilité pour des entreprises d'embaucher des gens en freelance sous couvert d'un statut d'auto-entrepreneur. Donc, finalement, quand on veut monter une société, il n'y a pas 36 solutions. Hein, soit vous êtes une SARL, une SA, et bon, voilà. Mais la difficulté aujourd'hui, elle est essentiellement financière, administrative. Et puis après, quand vous montez une société, vous devez être polyvalent. C'est-à-dire que vous devez avoir des compétences dans tous les domaines. Or, quand on démarre, on n'a pas ces compétences dans tous les domaines et il faut un certain temps pour les acquérir. Il faut du temps et il faut aussi des appuis. Et donc, les appuis, eh bien, pour avoir des appuis, il faut de l'argent. Et quand on n'a pas d'argent, il faut avoir du talent. Voilà, donc il faut vraiment beaucoup de choses mises les unes à côté des autres. Mais franchement, c'est possible et ça vaut le coup.
Alors on va en revenir à ces gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont russes. Et je le vois souvent au niveau du 6e arrondissement, on voit défiler les Russes, des femmes. Et il y a une nette différence par rapport à ce qu'on imagine, ce qu'est la femme milliardaire russe. Alors il y a une chose, pour pas que je me trompe, une question que je voulais poser. Est-ce que beaucoup de Russes peuvent se payer des manteaux en zibeline ou en vison ou en renard bleu?
Alors là, ce serait un long sujet parce que le marché de la fourrure, c'est quelque chose de vraiment à part, qu'on méconnaît beaucoup en Europe. Il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. La fourrure est quelque chose de culturel en Russie. Pas du tout comme chez nous et tout simplement pour des raisons climatiques. Donc en fait, si vous voulez, une jeune femme russe, même si elle a peu de moyens, elle va faire en sorte de pouvoir avoir son manteau de fourrure. Elle n'aura pas toujours un vison, mais elle fera en sorte au moins d'avoir une fourrure naturelle, au minimum du renard. Il y a ensuite un habit traditionnel, enfin une veste traditionnelle qu'on appelle la doublonka, qui est un petit peu moins féminine et moins esthétique, mais qui est au demeurant très chaude, qui va être un petit peu dans l'esprit du bombardier. Vous savez, le type de blouson qu'on appelle bombardier, qui est entre guillemets en fait le manteau de base en fourrure que toutes les femmes russes vont s'offrir. Avoir une fourrure quand on est russe et quand on est une femme russe, c'est une priorité en fait. Hein. Bon, c'est sûr que quand on vit au quotidien plusieurs mois dans l'année qui fait moins 20 degrés, moins 30 et donc dans certaines régions très éloignées de Moscou, il fait encore plus froid. Donc si vous voulez, le fait d'avoir une fourrure n'est pas un signe extérieur de richesse. Ce qui va faire la différence, bon, bien entendu, sauf si on est vraiment extrêmement pauvre, mais dans l'ensemble, on va dire, c'est quelque chose que les femmes russes, c'est un truc auquel elles ont accès. Pas forcément facilement, hein, mais elles l'ont et elles font en sorte d'y avoir accès. Donc vous ne pourrez pas distinguer vraiment comme ça d'apparence. Ce qui va faire la différence, en fait, c'est quelle fourrure elles portent. Est-ce qu'elles portent une fourrure justement en renard ou est-ce qu'elles portent du vison? Est-ce qu'elle a une fourrure avec une coupe européenne qui vient d'un designer italien, français, ou est-ce qu'elle porte une fourrure locale qu'elle aura achetée entre guillemets à un prix moins élevé.
Oui, alors je vais être très méchante parce que je posais cette question parce que j'avais vu ces femmes dans la rue et je voyais les femmes et il y avait un contraste entre la démarche de ces femmes, la façon dont elles étaient coiffées et autres, et le manteau qu'elles portaient et les, par exemple le sac à main. Alors je donne un exemple, on avait l'impression de voir une femme qui sortait d'un champ de vaches, qui avait sa magnifique parure en fourrure, le sac de grande marque et la démarche qui était très 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 paysanne. Alors est-ce qu'on a affaire à ces femmes qui sont issues de milieux très modestes et qui sont maintenant devenues millionnaires, ou alors est-ce que ce sont des femmes que l'on retrouve généralement en Russie et qui sont peut-être avec des copies, je ne sais pas, de sacs?
En fait, ce que vous dites, c'est vraiment intéressant et c'est une réflexion que je me suis souvent faite, que je me fais régulièrement quand je vois ces femmes, parce qu'il y a quelque chose quand même d'assez fascinant dans ce contraste que vous évoquez là. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, vous avez effectivement une catégorie de personnes qui ont connu une richesse finalement assez violente et assez récente. Et ça, si vous voulez, il y a une éducation de la classe et de la beauté qui prend un certain temps. Et je ne suis pas sûre que ça se fasse en une génération. À l'inverse, vous allez avoir une recherche, mais vraiment, ce sont des femmes qui ont tellement envie d'être belles. Il y a une recherche de la beauté que nous, femmes françaises et femmes européennes, on a parfois un peu abandonnée. Donc vous voyez, il y a vraiment une envie, mais parfois elles sont complètement à côté. Alors après, vous pouvez aussi avoir effectivement des femmes issues d'un milieu plus modeste, mais qui, comme elles viennent ici, elles mettent le paquet, quoi. Pour elles, elles mettent le paquet. Donc elles vont sortir la fourrure, le sac et tout ce qui va avec. Et on sort avec le brushing et on sort ses bijoux, etc. Mais dans l'ensemble ici, surtout dans ce quartier, je pense que vous allez voir surtout des gens relativement aisés. Donc, il y a tout un travail et c'est aussi ça qui me fascine et qui me plaît, que j'essaye de mettre en pratique avec Paris Princesse. C'est vraiment de faire un travail sur le style, sur l'allure, sur la classe, sur pourquoi assemble-t-on telle chose avec telle chose, pourquoi on évite d'en faire trop, pourquoi on va pas sortir sa parure Van Cleef assortie à son ensemble Chanel, plus à son vison, plus au brushing à l'américaine ultra avec un énorme volume, plus les chaussures Louboutin. Enfin, si vous voulez, en même temps, pour ces femmes-là, il faut voir que c'est une sorte de revanche. Elles viennent à Paris. Paris fait encore énormément rêver les gens, même si au niveau de la mode, on a beaucoup à faire et on a beaucoup à prouver. D'ailleurs, pas que dans le milieu de la mode. Surtout si on veut continuer à se positionner au niveau international, et on a beaucoup de concurrence. Mais donc elles viennent ici, si vous voulez, pour elles, c'est, elles réalisent un rêve. Même quand elles ont de l'argent et qu'elles viennent régulièrement, c'est l'occasion pour elles vraiment de se montrer. Alors elles le font à Moscou, elles le font chez elles, hein, quand elles sont dans leur milieu russe, parce qu'il y a vraiment une volonté quotidienne de se faire belle et de montrer qu'on a une position sociale également, parce que c'est aussi ça, hein. On veut montrer qu'on a une position sociale à travers le vêtement. Ces femmes-là ont encore beaucoup à prouver. Si vous regardez les femmes françaises aujourd'hui dans la rue, quelque part, c'est un peu triste, c'est un peu l'inverse. Vous avez peu de femmes qui cherchent encore à se positionner et à prouver cette beauté. On est à Paris, on est parisienne, donc quelque part, on se repose un peu là-dessus. Et là, je reprends en fait les mots d'un créateur qui s'appelle Julien Fournier, avec qui j'ai discuté de ça, parce que je lui disais, mais tu sais, parfois ça m'attriste, hein, parce que je vois la femme française. Alors la femme russe, elle est dans le too much, mais la femme française, où est-elle aujourd'hui et qu'a-t-elle à prouver? Et en fin de compte, c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment une synergie entre les deux, et il y a un travail à faire des deux côtés.
Ça me fait penser à une dame que je voyais, que je ne vois plus d'ailleurs, qui devait être âgée dans les 85-90 ans, et qui se promenait le matin dans la rue de Tournon, et elle était toujours habillée en balmain. Et quand je la voyais qui marchait, c'était une femme qui était, malgré son âge de presque 90 ans, elle était royale. Elle était royale. Elle avait la démarche de mannequin, elle était extraordinaire. Bon, cette dame-là, je la vois plus, mais je l'ai toujours remarquée, je la trouvais vraiment magnifique. Alors, ce que je voulais savoir, moi, c'est par rapport à ce qui se passe en Russie et les codes vestimentaires français, est-ce qu'on a parfois des clashs qui peuvent exister sur des choses qui se font en France, qui paraissent très, très classe, très grande fortune, et qui ne sont absolument pas acceptables en Russie?
Alors, pas vraiment. On a quand même, on jouit d'un sacré avantage, hein. Lorsque on émet un code dans la mode, il passe là-bas, il passe. Évidemment, il y a des réserves à émettre par rapport à ce que je dis, parce que il passe lorsqu'il est très labellisé. Lorsque vous êtes Chanel, Dior, Balmain, justement, là, qui est revenu avec une collection qui plaît beaucoup aux Russes, d'ailleurs qui plaît peut-être un petit peu moins aux Françaises, mais qui a quand même beaucoup de succès. Donc, quand vous êtes labellisé et que vous êtes français, on peut se permettre tellement de choses. Et c'est pour ça aussi que je dis qu'on se repose un peu trop, entre guillemets, sur nos lauriers, parce qu'on n'est peut-être pas suffisamment... Enfin, j'allais dire, on n'est pas suffisamment à l'écoute. C'est pas vrai, parce que finalement, quand même, les créateurs cherchent à séduire aussi ce type de clientèle. Donc, il y a quand même une volonté de style qui correspond à ces gens-là. Par contre, c'est un petit peu différent quand il s'agit du mouvement des nouveaux créateurs. Parce que les créateurs, bon, ils vont amener des choses peut-être qui rentre moins dans les, effectivement, dans les codes. Enfin, dans les codes, il faudrait, encore faut-il définir quels sont les codes, mais on va dire les créateurs amènent quelque chose de différent ou de nouveau, en tout cas de non labellisé, et là ils doivent se faire une place. Ça, c'est plus dur. Donc les Russes, en fait, ils ont encore un petit peu de mal avec ça, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à confondre classe et label. Et quand ils nous voient, nous, justement, femmes françaises, qui sommes moins label hein, aussi, faut le dire, hein, on l'aime avec parcimonie, et on est plus attaché à une harmonie esthétique, ça les fascine. Et là, ils ont envie de ça. Mais d'un autre côté, c'est pas assez pour eux. En tout cas, pour elles, c'est pas assez. Parce qu'elles ont envie de quelque chose de plus clinquant. Après, bon, si vous voulez, il y a des choses dans la haute couture qui sont extrêmement difficiles à porter au quotidien. C'est toute la difficulté de se positionner entre haute couture et prêt-à-porter. Vous avez quand même des choses... bon, je sors des classiques parce que c'est ça qui leur plaît. Mais justement, chez Chanel, qui sont tout à fait... possible, vous pouvez les porter au quotidien. Mmh. Après, vous avez des choses plus excentriques et bon, qui sont du domaine presque artistique. Mais les femmes russes, si vous voulez, elles n'ont pas de limites, quoi. Elles n'ont pas de limites. D'abord, elles veulent se faire belles tous les jours, quelles que soient les circonstances. Hein. C'est pas vraiment un marché pour le sportswear.
Quel que soit leur niveau social aussi.
Quel que soit le niveau social. C'est une priorité. C'est-à-dire que même quand vous n'avez pas d'argent, vous vous acharnez à avoir une apparence où on va dire que vous êtes belle. Et je le vois même parce que, si vous voulez, je suis en contact avec des personnes vraiment de différents milieux sociaux. Et ça, quelque part, ça me fascine. Alors, il y a des choses aussi. D'abord, comme je vous le disais, d'abord, ce sont des femmes qui ont beaucoup de choses à prouver socialement. Ensuite, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, c'est déjà plus difficile de trouver un mari qu'ici. Donc, on fait un effort de séduction. Ensuite, il y a aussi la culture soviétique qui est restée, parce que dans la culture soviétique, pour le travail ou pour l'école, on s'habillait. C'était une question de respect du camarade. Donc on faisait avec les moyens du bord, hein. C'était parfois un peu austère, il n'y avait pas vraiment de place pour le marché de la mode. C'est pour ça que d'ailleurs il y a une telle euphorie aussi aujourd'hui et qu'il y a un tel créneau à prendre, qui est d'ailleurs déjà bien exploité. Mais si vous voulez, bon, au quotidien, je le vois, j'ai des copines russes qui habitent en France, qui ont des enfants, elles les emmènent à l'école. Et bien toujours, les petits garçons ou les petites filles issues des familles russes, il y a un effort vestimentaire, quel que soit le milieu. Hein. C'est vrai un petit peu dans le reste de la population slave d'ailleurs, hein. Chez les Polonais, j'ai des copines polonaises beaucoup. Voilà, c'est des filles qui font cet effort vestimentaire. Encore une fois, qui s'est un petit peu perdu dans la tradition parisienne. Alors que quand vous allez aujourd'hui à Moscou, lorsque vous faites les magasins en termes de shopping, waouh! C'est dur, c'est dur. Si vous n'avez pas les moyens, parfois je me dis, mais comment elles font? Parce que nous, ici à Paris, on peut compenser avec des marques de prêt-à-porter qui copient. Il y a un foisonnement entre ça, les friperies. Enfin, il y a un marché, les ventes privées à moindre coût. Quand même, dans un budget à peu près raisonnable, quand vous êtes issu d'un milieu social modeste, vous pouvez vous habiller. Et d'ailleurs, vous le voyez surtout chez les jeunes filles immigrées. Vous le voyez beaucoup moins chez les Françaises. Vous le voyez chez les Africaines. Vous le voyez dans le milieu latino. Les Parisiennes, non, la Parisienne, elle va sortir son sac Longchamp, mais c'est pas grave si elle est habillée avec un top complètement basique ou en jean.
Tout à fait, ouais.
Il n'y a pas de place pour le jean en Russie, chez les femmes, hein. Très peu. Hein. Donc quand vous allez bosser, même si vous voulez être trendy et fashion avec un jean, je ne le fais jamais là-bas. Jamais. C'est pas acceptable, en fait. C'est pas acceptable. Bon, après, on peut s'imposer, hein. L'idée, c'est aussi de s'imposer avec un style, comment dirais-je, justement, de faire passer l'idée aussi qu'il n'y a pas que le label. Il y a d'abord les créateurs, et puis ensuite, il y a le fait de trouver son style et de laisser jaillir, trouver son identité personnelle. Laisser jaillir sa beauté sans qu'elle passe par des codes, forcément. Alors là, je dis ça, attention, je dis ça en même temps, c'est comme si je prêchais pas pour ma paroisse, hein, parce que plus je vais avoir de clientes qui fréquentent les magasins et plus je serai confortable. Mais le but sur le long terme, c'est vraiment qu'une femme trouve son style.
Là, je reviens toujours dans mon quartier, on voit toujours des choses assez extraordinaires dans mon quartier.
Donc, c'est un véritable zoo.
C'est un véritable zoo. Alors ici, nous avons la soupe populaire. Donc là, je vous parle d'une catégorie sociale qui est complètement à l'opposé de la vôtre. Mais il y a des exemples quand même qui se rejoignent. On voit beaucoup d'immigrés de l'Est, donc beaucoup de Russes. Et quand on les voit arriver, alors on a l'impression qu'ils arrivent par charter de bus de 50 ou de 55. Donc ils arrivent en troupe et ils vont directement à la soupe populaire pendant les premières semaines. Et alors ils sont habillés, bon, correctement. Bon, ils ont peut-être des jeans, mais enfin c'est toujours une tenue correcte. Et puis alors ça m'a amusée parce que j'en ai revu. Donc ça faisait quelques mois que je les avais pas vus et ils sont revenus là. Et alors ils sont venus manger la soupe populaire, peut-être pour revoir des anciens copains, je ne sais pas. C'est la différence vestimentaire qu'ils avaient 6 mois après ou 1 an après par rapport à la tenue vestimentaire qu'ils avaient. Et là, tout dernièrement, je parle d'un monsieur que j'ai rencontré, qui allait à la soupe populaire donc, et qui était habillé avec veste de tweed, petite chemise, pantalon bien mis, etc. Et je me suis dit, mince, ce type-là, je l'ai vu il y a 6 mois, 1 an, et c'était vraiment au bas de l'échelle. Et d'un seul coup, rien qu'au niveau vestimentaire, il a changé. Donc, ça rejoint un petit peu ce que vous dites, où ils essayent très rapidement de changer de tenue vestimentaire au fur et à mesure qu'ils montent dans la classe sociale.
Ça, c'est vraiment quelque chose de marquant. Et je l'ai vu aussi pour avoir travaillé il y a quelques années en Russie, hein, à Moscou, dans une société où je travaillais avec des collègues russes. Et c'était flatteur parce que je recevais des compliments de jeunes femmes qui venaient me voir et qui me disaient oh là là, mais quelle classe tu as. Et en fait, ça me faisait rire parce qu'à l'époque, j'avais pas un rond, moi. Enfin, j'avais pas un rond, donc je m'habillais vraiment de façon... Je faisais toujours un effort, parce que d'abord j'adore ça, et puis ensuite, pour moi, je suis d'accord avec ce code de on travaille et on est dans un... Ça me plaît, moi, cette idée d'effort vestimentaire. D'ailleurs, elle peut se faire aussi, hein, dans des choses plus marginales, dans du streetwear, dans du sportwear. J'ai pas de problème avec la catégorie de style, mais cette démarche me plaît. Et donc, encore une fois, j'avais pas d'argent. Et pourtant, moi, quand je regardais ces filles-là, parfois, je me disais, mais oh, elles sont. Je me disais pas, oh, elles sont toujours super bien habillées. Mais je me disais, waouh, elles font un effort, elles dépensent de l'argent. Comment font-elles? Parce que je connaissais un petit peu les salaires. Donc, mais par contre, quand vous les voyez le week-end en boîte, c'est difficile de faire la distinction. Enfin, c'est pas difficile. Après, quand on connaît les codes, on fait la distinction. Mais on peut être, ça peut être trompeur. Parfois, on peut croire qu'on a affaire à une personne riche et c'est pas le cas.
On a ce code-là en Méditerranée. Je veux dire sur la,
oui,
par exemple, absolument, dans le sud, que ce soit Nice, Toulon et autres.
Ouais, il y a beaucoup de. Ce que j'allais te dire à Marseille, par exemple,
Marseille.
Il y a un peu l'archétype vilain. Elles m'en voudront pas si elles nous écoutent, mais de la cagole, tu sais, qui reste un peu à la maison, qui est toujours belle, le matin elle va emmener les enfants à l'école, elle se fait toujours belle, etc. Donc c'est pour ça, c'est vraiment parisien ce que tu décris en fait, parce que ailleurs en France c'est peut-être pas vraiment le cas, les femmes ont peut-être plus de...
Oui, absolument.
Plus d'attention vers elles-mêmes.
Absolument, oui, et puis aussi un petit peu, justement, je reviens sur Julien Fournier, ce créateur qui m'a, lui me disait, mais tu sais, c'est parce qu'en fait la femme parisienne, elle est à Paris, dans la mesure où elle est à Paris, c'est la beauté de la ville, donc elle n'a plus rien à prouver. Et quelque part, je trouve ça assez intéressant, cette idée, parce que je pense qu'il y a de la, un peu de vérité là-dedans. Ceci dit, et je le vois avec Paris Princesse, puisque je fais aussi du conseil en style pour les femmes parisiennes et quand même, il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande et c'est aussi pour ça que les agences de relooking et tout ça fonctionnent aussi bien. C'est que la femme française, maintenant, elle a envie qu'on la regarde à nouveau. Bien souvent, elle est active, elle a des enfants, donc elle a peu de temps et en fait, elle a besoin d'un coup de main. Et ça, on sent qu'il y a quelque chose là-dedans qui revient. Et tant mieux, parce que je trouve ça bien, moi.
Quelle est la place de la femme en Russie? Est-ce que c'est une société très patriarcale ou comment ça se passe? Alors, parce qu'on parlait un peu du sud de la France, qu'on a l'image souvent du monsieur macho qui travaille, qui saigne un peu pour que sa femme reste à la maison et qu'elle se fasse belle, en gros, qu'elle soit toujours belle pour lui, quoi. Est-ce que c'est un peu comme ça en Russie?
Il y a différentes choses. Bon, déjà, la place de la femme en Russie, elle est très importante. Et ça l'est depuis le début du siècle précédent. Je précise des fois qu'on aurait un doute. Pourquoi ? Parce que, bon, déjà, effectivement, y a, avec les différentes guerres, etc., il y a eu un problème de déséquilibre entre les hommes et les femmes, où il y avait plus de femmes que d'hommes. Donc, il y a quand même beaucoup de femmes qui ont pris la position des hommes. Ensuite, dans la culture soviétique, il y avait un accès social pour la femme qui était absolument égale à l'homme. Donc, vous pouviez avoir des femmes qui avaient des postes administratifs, attention quand je dis administratifs, hautement placés, des postes dans la recherche, dans l'enseignement, dans les arts. Voilà, c'est très courant aujourd'hui de rencontrer une... Enfin, c'est très courant. À Moscou, hein, parce qu'il faudrait quand même... Je parle pour Moscou, il faudrait quand même replacer ça par rapport au reste de la Russie, parce que c'est pas non plus toute la Russie. À Moscou, vous rencontrez fréquemment des femmes qui ont leur business et qui sont chefs d'entreprise, hein, ce qui est quand même beaucoup moins fréquent ici en France. Donc, la place de la femme, elle est importante. Maintenant, l'activité aussi est très valorisée, c'est-à-dire que une femme qui est active, elle est valorisée, ce qui n'est plus le cas chez nous, il faut dire ce qui est, parce qu'on a tendance à vous dire, tiens, c'est bizarre, là, cette femme qui a son business, mais alors, en plus, elle a des enfants, ceci, cela, alors que bizarrement ils sont dans une société assez macho. L'homme russe, c'est pas un homme facile à vivre, je veux dire. La femme russe non plus en même temps, mais les hommes russes sont des hommes qui ont le choix, donc ça se sent. À côté de ça, lorsque une femme ne veut pas travailler et qu'elle veut s'occuper de ses enfants, c'est tout à fait accepté et ça fait partie de la norme. On n'a pas de problème avec ça. Elle peut rester à la maison 3 ans, 4 ans pour s'occuper des enfants et l'homme va subvenir entièrement aux besoins. Et ça, c'est culturel, c'est-à-dire que c'est l'homme qui financièrement porte la famille. Alors ça pose pas mal de problèmes et de questions aussi. J'ai pas mal de copains français qui vivent en Russie depuis de nombreuses années. Et bon, dans l'ensemble, c'est quand même des hommes qui ont accepté qu'il fallait qu'ils subviennent aux besoins de leur femme s'ils voulaient être avec une femme là-bas. Parce que si vous n'acceptez pas ça, dans une certaine mesure, attention, hein, je suis pas en train de parler de comportement excessif, mais si vous n'acceptez pas ça, vous ne pourrez pas construire une famille, en fait. Ça passe par là et c'est la norme.
Dans la clientèle que vous avez russe en France, qu'est-ce qui les intéresse le plus? Est-ce qu'ils sont quand même ouverts à des couturiers étrangers, à des parfums étrangers par rapport aux parfums français, ou c'est toujours le produit de luxe français qui prédomine?
Alors, en fait, il y a une ouverture pour, effectivement, les créateurs étrangers, que ça soit dans la gamme couture, parfum. Oui, il y a une ouverture, mais en fin de compte, quand les gens viennent ici, ils n'ont pas beaucoup de temps. Et ils ont vraiment envie de profiter de ce que Paris peut leur offrir, en fait. Donc, c'est plus une contrainte, je dirais, presque logistique et de temps plus qu'une contrainte d'ouverture et de budget. On a envie d'aller... alors là, je parle pour le Russe qui connaît peu, mais dans l'ensemble, il y a peu de Russes qui viennent ici pour la première fois. Hein. C'est vraiment des gens qui sont qui reviennent régulièrement. On commence à être face à une clientèle qui connaît bien le marché. On est plus hein, sur ce fantasme d'il y a 10-15 ans où les gens dépensaient leur argent de façon sans réfléchir et dans n'importe quoi. Aujourd'hui, on va faire un marché de qualité. Donc vous avez une demande qui devient plus qualitative, voilà, et c'est aussi pour ça que je ne peux pas me contenter de faire que du personal shopping, parce qu'avec ce type de clientèle, c'est un métier qui reste exclusif, qui se fait en réseau, qui se fait sur une clientèle privilégiée, mais autrement, qui avec ce type de clientèle, d'ici 10 ans, n'aura plus de raison d'être, parce que c'est des gens qui auront déjà leur contact, enfin, si, peut-être ça aura une raison d'être dans le renouvellement de la clientèle avec de nouvelles, avec une nouvelle vague de entre guillemets de riches, mais qui ont des comportements quand même un peu différents. Et là, la notion de service est très importante. Alors, les Russes quand même adorent la nouveauté. Ils adorent. Alors, c'est bizarre, hein, parce que il y a des contradictions dans ce que je dis. D'un côté, je dis qu'ils sont très label, et d'un autre côté, ils ont très envie de nouveauté. C'est-à-dire que il faut faire ce que les Américains appellent éduquer le client. Il faut l'éduquer, il faut l'amener vers des choses nouvelles. Et je pense que c'est comme ça qu'on valorise en plus une ville hein, et son, entre guillemets, son patrimoine de créateur. Et alors dans la demande, ce que je vois comme demande par rapport aux produits étrangers, c'est les Italiens, quoi. La culture italienne, les créateurs italiens, et les Italiens leur rendent bien, parce que les Italiens sont extrêmement actifs sur ce marché et font beaucoup d'efforts. Ils sont très implantés, ils sont très présents. On a beaucoup de retard par rapport à eux, hein. Beaucoup, beaucoup. Voilà, et à côté de ça, ils sont pareil, ils ont un côté aussi où ils s'appuient un petit, ils prennent appui sur on va dire le passé de toute une culture de la mode. Ils ont une crédibilité, une légitimité, et sauf qu'ils la renouvellent. Donc nous, il y a un mouvement, mais on n'est peut-être pas assez appuyé, quoi. C'est ça, on n'a peut-être pas assez appuyé. Quand je vois, il y a beaucoup de nouveaux créateurs, il y a beaucoup de choses, des créateurs voilà, français, parisiens, que ça soit dans le domaine de la couture, des accessoires. Il faut être très, très combatif pour se faire une place. Et je pense qu'effectivement, sur ce type de clientèle, il y a un créneau, mais il y a tout un travail de longue haleine, de développement et d'éducation, entre guillemets, pour les amener, ces gens-là, vers des nouveaux créateurs. Et c'est comme ça qu'on avance, quoi. Je veux dire, on ne va pas non plus s'arrêter sur ce qu'on a déjà, quoi. C'est très arriviste hein, comme comportement.
Alors on a toujours en tête les nouveaux riches, je veux dire les stars américaines qui sont quand même, quand on voit les maisons, quand on voit la façon de se vêtir, par exemple pour des Oscars, qui font preuve d'un mauvais goût inouï. Et bien que les années passent, le mauvais goût est toujours là. Est-ce qu'on a cette impression avec les Russes, ou alors ils s'améliorent, je veux dire, ou ils progressent très rapidement?
Alors encore une fois, je parlerai pas de mauvais goût. Je parlerai pas de mauvais goût parce que c'est pas l'envie qui m'en manque, mais parce que je me positionne un petit peu différemment et que je vois les choses en termes de code. Voilà, je pense que les Américains et les Russes, et ça, je vais pas me faire des amis en disant ça, mais sur beaucoup de choses, ils sont très proches. Dans la culture. Ils sont très, très proches. En ce qui concerne la mode et justement les codes vestimentaires qu'on veut dégager à travers la mode, ils sont extrêmement proches. Aujourd'hui, c'est encore un peu tôt pour dire comment les Russes vont évoluer par rapport à ça. Je pense malgré tout qu'il y a une recherche et une remise en question qu'il n'y a peut-être pas chez les Américains. Et puis, il y a une proximité aussi de la vieille Europe. Qui fait que, bon, voilà. Mais les Russes sont aussi orientaux, quelque part. dans la culture. Hein. Et ça, ça se ressent à travers cette envie de couleur, cette envie de strass, de paillettes, de fourrure, de voilà. Donc, c'est un petit peu difficile de dire comment ça sera. Ils sont pas encore prêts à arriver sur des styles entre guillemets épurés. Voilà, on est encore énormément dans le démonstratif. Il suffit de regarder un peu la télévision pour s'en rendre compte et de regarder un petit peu la façon dont s'habille la jet set. Mais je trouve, moi, qu'il y a la montée d'une élite par rapport à ça. Vraiment. Franchement, alors après, je ne sais pas encore trop à quoi c'est lié. Est-ce que c'est des gens qui ont déjà de l'argent depuis un certain temps par rapport aux autres Russes? Est-ce que c'est des gens qui sont sensibilisés au milieu de la mode, donc qui ont une certaine culture, entre guillemets? Je ne sais pas trop. Mais je pense qu'il n'y a que le temps, hein, qui va nous montrer ça. Mais en tout cas, il y a quand même une volonté de trouver un style. Les Américaines sont un peu différentes par rapport à ça. Quoique dans la clientèle américaine haut de gamme, bon, elles sont très axées sur les créateurs, les designers, tout ce qui est nouveau en fait. Elles sont pas très label finalement. Il y a un peu une différence, j'ai l'impression, entre voilà, l'image qu'on a au quotidien et le paraître social. Et le paraître social, que ça soit chez les Américains et les Russes, voilà, il y a quelque chose de très fort encore pour eux à faire passer. D'ailleurs, ça se voit aussi dans les voitures, ça se voit pas que dans l'habillement. C'est un défilé de voitures de luxe quand on est à Moscou. C'est un défilé, c'est absolument impressionnant. Voilà, c'est des Lexus, des Mercedes. Enfin, j'y connais rien en voiture, donc je veux pas trop m'aventurer sur ce sujet. Mais rien à voir avec Paris. Le parc automobile de Moscou, hein. Attention, je parle pas du reste de la Russie. On voit à mon grand regret, on voit de moins en moins de Lada. non, c'est la Lada, ce qu'on appelle le modèle, la Jigouli. On en voit de moins en moins. Cette année, là, je suis allée quand même 5-6 fois. Bah, j'étais presque pas déçue, mais je me suis dit, waouh, c'est beaucoup moins coloré. Mais ceci dit, c'est encore la ville des contrastes, hein, parce qu'on peut avoir une Lada à côté d'un Hummer, quoi. Ça fait bizarre. Mais effectivement, en se baladant sur Tverskaya, qui est l'avenue principale, l'équivalent des Champs-Élysées, j'étais là avec mon iPhone, je prenais des photos tous les 2 mètres des voitures, parce que c'est impressionnant. Et là, on est aussi dans le démonstratif, voyez.
Autre question que je me posais, on a en France, comme on a en Angleterre, comme on a en Allemagne, on a cette catégorie de gens qu'on appelle les BCBG, qui sont en fait des gens qui sont habillés de manière très classique, très bien habillés, mais qui font quand même ancienne Angleterre ou ancienne France ou ancienne Allemagne. Est-ce que ça existe également en Russie? Qu'on a cette catégorie de gens?
À ma connaissance, non. Et là, en même temps que vous me posez la question, je cherche. Et c'est vraiment intéressant que vous me posiez cette question. Je vais faire attention à ça la prochaine fois, là, que je repars à Moscou dans 2 semaines. Je vais être plus attentive à ça. À ma connaissance, non. Non, parce qu'en fait, les BCBG que vous pourrez trouver, ça sera des Russes immigrés à l'étranger, qui ont quitté la Russie au début du siècle dernier, et qui sont issus en fait d'une, voilà, qui faisait partie
La Russie blanche.
La Russie blanche. Là, c'est des gens qui seraient dans ces codes-là
et qui sont rentrés dans les codes, ouais, en fait de la vieille Europe.
Dans les codes de la vieille Europe, ou alors tout simplement dans les codes d'une, entre guillemets, ils ont une culture de la richesse qui est plus ancienne, quoi. Donc ils ont développé
qui est digéré,
ça. Qui est digéré. Oui. Donc ils sont plus vraiment dans le démonstratif. Après, vous avez quelques personnes, effectivement, c'est extrêmement rare, en fait, je cherche, mais il y en a probablement, mais très peu. Et ça, je pense que c'est le temps qui va nous le montrer. C'est un phénomène qui est lié au temps. pour moi.
Parce qu'il y a une anecdote qu'on m'avait racontée, c'est un ami qui va voir une famille très BCBG qui habite en Charente, et ils ont des chevaux. Et à un moment, il vient pour acheter un cheval, et la dame lui dit « Attendez, mon mari n'est pas là, mais je vais vous présenter les chevaux. » Et alors, elle rentre dans un box et elle fait « Oh, il n'a pas été nettoyé ce matin. » Et elle prend... elle cherche dans sa poche et elle prend ce qu'il pensait être un bout de chiffon, puis elle nettoie en vitesse la croupe du cheval en disant il va être plus présentable. Et en fait, il s'aperçoit que le chiffon, c'est un foulard Hermès. Et il se dit il y a qu'en France qu'on peut trouver des choses comme ça, des situations un peu pareilles. Je pense qu'en Angleterre ou en Allemagne, on peut trouver la même chose. Je me pose la question ailleurs, est-ce que ça peut se faire? Est-ce qu'on a ce côté, ce désintérêt de l'objet qu'on achète 300 ou 400 euros le foulard? Puis bon, on s'en sert comme...
Alors oui, il y a un désintérêt de l'objet, par contre. Vous n'avez pas vraiment cette culture BCBG, mais vous avez un désintérêt de l'objet. Si, bien sûr. Mais ça, c'est peut-être lié au fait de la... quand il y a de l'argent. Je veux dire, si, parce que l'argent, parfois, est aussi dépensé de façon... lorsque vous vivez dans le luxe et que tout votre argent passe dans le luxe, que ça aille du moindre... accessoires pour la maison, pour le vêtement, pour la décoration, pour, je sais pas, la déco d'intérieur, la vaisselle, etc. Jusqu'en passant par la voiture, en passant... Bah forcément, vous avez du gaspillage. Et vous avez un désintérêt, parce que vous ne voyez plus au bout d'un moment. Vous savez, quand vous montez d'un cran, on dit parfois que l'argent monte à la tête de certaines personnes. Personne n'est à l'abri. Tout le monde peut tomber là-dedans. Tout le monde peut tomber là-dedans. Quand on a pour moi, c'est une force et une intelligence de l'esprit que de savoir garder un regard sur les choses. Alors, à côté de ça, vous avez des Russes, hein, et c'est ça qui me fascine. Il y a aussi des gens qui ont connu la misère et qui ont connu la richesse. Et je pense que ça fait un mélange complètement encore différent. Il y a un rapport à l'argent qui est différent. Il y a aussi le fait que, contrairement à nous, on a été habitués à avoir confiance dans notre système économique, monétaire. Donc, l'argent, voilà, on utilise plus la carte bleue que le cash. L'argent, il est à la banque, il n'est pas sous le matelas. Enfin, c'est sauf dans les milieux commerçants ou autres. Et encore, aujourd'hui, on fait tout pour empêcher les gens d'utiliser du cash. Donc, il y en a de moins en moins, de toute façon. On va dire, c'est devenu vraiment marginal. Les gens qui utilisent le cash, en Russie, c'est la norme. C'est la norme. Vous avez de l'argent, vous le dépensez. Pourquoi ? Parce que la confiance dans le système monétaire, dans le système bancaire, dans le système économique, elle est extrêmement récente, voire quasi inexistante. Genre la dernière crise, elle remonte à 98, la crise du rouble, où tout s'est effondré, où la moitié des entreprises ont fait faillite, et là vous avez eu un ménage et c'est reparti. Aujourd'hui, et ça par contre c'est vraiment un message que je m'acharne à passer, parce que je trouve que les gens pensent que souvent, bien sûr on se dit c'est du pain béni cette clientèle, mais attention hein. Il y a des choses qui peuvent s'écrouler très rapidement avec ce pays. Elle a quand même c'est un pays qui a une économie qui repose sur les matières premières. Bon, voilà, ça peut. Et un Russe, ça lui fait pas peur. C'est-à-dire que bon, alors les Russes, c'est vrai, on dit qu'ils sont fatalistes. Je pense que c'est vrai, mais c'est des gens qui ont en tête le système de la débrouille. J'ai de l'argent, je le dépense. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que ça se passe. Donc ça donne lieu à des comportements extrême, et puis bah tant pis, advienne que pourra, on verra bien demain, et puis c'est tout. Et moi je me sens très proche d'eux par rapport à ça. Oui, je me sens très proche d'eux par rapport à ça, parce que c'est quelque chose je pense que j'aurais pas pu travailler avec des Russes si j'étais pas comme ça. Et d'ailleurs je pense qu'on peut pas, même je vais même aller plus loin, monter son affaire si on n'a pas ce soupçon c'est un soupçon de folie, c'est-à-dire que on essaie d'assurer ses arrières, mais on se dit voilà, je prends un risque, j'avance, je vis l'instant présent, et puis si demain ça fonctionne pas, je me referai, je vais rebondir et je ferai autre chose. Voilà, les Russes sont comme ça. Donc le rapport à l'argent est complètement différent.
Il y a quelques semaines, il y a eu des reportages sur la Turquie, sur Arte, je crois, et qui présentaient un petit peu la ville, enfin tout ce qui se passait au niveau du Bosphore et d'Istanbul. Mmh. Et ils ont exactement cette particularité à l'argent. Et justement, c'est le montrer. Donc on achète des voitures de très très grand luxe, on dépense l'argent, on va vers l'avant, on s'habille, on fait attention à ses tenues vestimentaires et autres. Et là où je vous rejoins, c'est ce côté un peu oriental des Russes,
oui,
qui rejoint effectivement le côté oriental des Turcs, par exemple.
Oui, absolument, ils sont très proches. Mais en même temps, si vous regardez les années 80 ici en France... on était beaucoup plus dans ce modèle. Hein. Je veux dire, les années 80, je sais pas, moi j'ai connu des années fastes hein, qui se sont cassées la gueule, faut dire ce qu'il y a, mais où c'était, on était comme ça, on était beaucoup plus dans le démonstratif. On avait de l'argent, on achetait des voitures.
On voyait plus de femmes avec des fourrures dans les années 80.
On voyait plus de femmes avec des fourrures. Bon, à côté de ça, bien sûr, on a évolué et aussi dans le bon sens, qu'on était moins soucieux de l'écologie, on était moins soucieux de la santé de chacun, etc. Mais on était plus dans l'instant. Mais pourquoi ? Parce que la croissance aussi était là. La croissance était là. C'était, et dans ces pays-là, il y a une croissance. À partir du moment où il y a une croissance, même si vous avez une partie, attention, hein, vous avez des gens qui crèvent de faim aussi. Hein, faut pas négliger ça. Mais vous avez donc une volonté pour les gens. Ici, si vous voulez, il ne faut pas. De moins en moins, il faut pas montrer l'argent. Il ne faut pas montrer l'argent. Ça vous attire que des ennuis. Ça vous attire des ennemis.
En France, on a
ça
horreur.
Vous attire des agressions. On déteste ça.
C'est vrai qu'en
ça.
France, on a un problème. C'est qu'on a horreur des gens qui ont de l'argent.
D'ailleurs, on va le dire, à nous trois, on n'a pas des revenus totalement. Pour que nos auditeurs n'aillent pas nous prendre en grippe parce qu'on est en France.
Oui.
On parle
oui.
de luxe depuis tout à l'heure, mais nous-mêmes, on ne roule pas sur l'or. Hein. Juste pour les auditeurs, pour qu'ils le sachent.
Oui, bon, ça, je pense qu'ils doivent le savoir.
Hein. On va savoir. Hein.
Non, c'est vrai qu'on a un problème en France, c'est qu'on a un rapport avec l'argent qui est toujours, je dirais, qui est très critique, qui est très catholique. C'est-à-dire que le pauvre ira toujours s'asseoir à droite du Père et le riche, il sera toujours en enfer.
Oui.
Donc on a gardé un petit peu ce sentiment-là. Et c'est vrai qu'on montre toujours du doigt le riche. Il ne devrait pas exister.
De la même façon, en fait, qu'on a un problème avec le succès, en fait, avec les gens qui est... Enfin, avec la réussite, hein. Mm-hmm. Ça va de pair. Bon, je suis un peu remontée là, je suis un peu fâchée, mais justement, ça rejoint toutes ces difficultés qu'on a quand on a une volonté d'entreprendre, d'avoir un business, d'avancer. Et en fait, vous vous rendez compte en fait d'une sorte de mentalité. C'est pas le cas de tout le monde parce que heureusement, il y a des gens qui sont pas comme ça. Et il y a un esprit aussi combatif qui existe. Mais voilà, en Russie, quand on a de l'argent, on le montre.
Rumeur ou pas rumeur, on a cité il y a quelques mois l'exemple d'un milliardaire russe qui aurait signé un compromis de vente pour l'achat d'une valeur de 500 millions d'euros, une villa à Villefranche-sur-Mer. Est-ce que le russe est capable de mettre autant d'argent qu'il veut pour quelque chose qu'il veut ?
Oui.
Ah, je
oui.
sais pas si c'est propre aux Russes. Je pense que quand tu as du pognon et que tu veux quelque chose, si tu le veux vraiment, tu vas le faire, que tu sois américain, français ou autre.
Je suis pas sûre.
Bon, après,
c'est pas dans nos sphères, quoi, mais des gens qui ont énormément d'argent, je pense que...
Bon, par contre, en ce qui concerne la rumeur, est-ce qu'elle est avérée ou pas, je peux pas vous dire. Je ne sais pas. Mais par contre, par rapport au comportement, oui, bien sûr, oui. Il n'y a pas de limite. C'est comme ça. Bon, après, ce serait à mettre en recoupement avec le reste de la fortune, etc. Mais quelque part, heureusement, un petit peu aussi que les Russes investissent dans cette région, quoi, parce que ça stimule quand même énormément la vie économique. Hein. Je veux dire, faut pas cracher dans la soupe. Hein. Il y a eu beaucoup de débats d'ailleurs avec des pas cette année, mais l'année passée, beaucoup de clashs. Je sais plus autour de quelle histoire exactement, mais par rapport aussi aux Russes qui dépensaient leur argent à Courchevel. Bon, il y a un moment donné, faut arrêter, quoi. Faut savoir ce qu'on veut. Hein. L'économie, elle tourne. Si elle arrive à tourner demain, enlever les touristes chinois qui dépensent leur argent sur les Champs-Élysées, vous avez les trois quarts des boutiques qui ferment. J'exagère, mais c'est pour montrer l'impact. Donc, de toute façon, on a aussi la France. On oublie souvent de le dire. On oublie que la France est un pays touristique. C'est un pays touristique.
Au train où ça va, ce ne sera bientôt plus que un pays touristique. En plus.
Ah oui, ça c'est sûr, mais...
Parce que vu l'état de l'industrie, etc., c'est bientôt que un pays touristique.
C'est une source de revenus et je pense qu'il ne faut pas négliger cette clientèle. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter et faire n'importe quoi et accepter des gens qui font n'importe quoi avec n'importe qui. Il faut avoir quand même une certaine éthique. Bon, évidemment, quand on parle de montant d'argent comme ça, forcément, on se pose le problème de l'éthique. C'est-à-dire, d'où vient cet argent ? D'où vient cet argent et comment se sont bâties les fortunes ?
Ça, c'est un autre débat.
Voilà, c'est un autre débat, absolument.
Pour continuer un tout petit peu sur ce débat-là. Donc, tu parlais de l'origine un peu de l'argent, des fortunes russes. À la télé, on entend souvent parler de la mafia. Est-ce que c'est quelque chose qui vraiment est omniprésent là-bas, qui est pesant, comme on peut nous en parler ici ? Ou est-ce que finalement, non, pas trop ? Enfin, vivre là-bas, sur place.
Alors, écoute, c'est vraiment un sujet extrêmement long, riche et complexe. Ce que je voudrais dire, c'est que ce que recouvre pour nous le mot mafia et ce que recouvre le mot mafia pour les Russes est extrêmement différent. Et c'est ça en fait qu'il faut affiner parce que si vous voulez, les cadres juridiques ne sont pas les mêmes. Tout est complètement différent. Donc il faudrait vraiment ajuster en fonction de... Il faudrait déjà délimiter le terrain. Qu'est-ce que la mafia ? Quel genre d'activité ça recouvre ? Parce que la mafia aujourd'hui, quand on en parle, c'est aussi bien en fait, les gens qui se sont appropriés des activités, par exemple dans les matières premières au moment de la perestroïka, quand il y a eu la libéralisation du marché, que des gens qui sont dans la pègre et qui clairement vivent, j'en sais rien, du proxénétisme ou autre. C'est extrêmement complexe de répondre à cette question. Par contre, quand on est sur place et quand on vit au quotidien et quand on a un business, bon attention, hein, tout dépend de l'ampleur du business, mais moi, à mon échelle par exemple, c'est beaucoup plus facile pour moi de travailler là-bas et d'avoir mon affaire que de travailler ici. J'ai pas les mêmes contraintes. Par contre, qui dit que si jamais j'étais extrêmement fortunée, peut-être que j'attirerais l'attention et que ça serait différent. Mais par exemple, je vois dans le milieu du commerce, il y a quelques années encore, ouvrir une boutique à Moscou, c'était presque du domaine de l'impossible. Il fallait avoir vraiment des relations quasi mafieuses. Aujourd'hui, ouvrir une boutique à Moscou pour un étranger, c'est tout à fait envisageable. Donc, il y a beaucoup de choses encore qui sont de l'ordre du fantasme. Donc, il faut définir ce que ça recouvre pour un Russe et pour un Français. Et c'est extrêmement différent.
Très bien.
Merci Dorothée.
Merci à vous.
Merci Dorothée. Bonne suite dans votre travail et dans l'entreprise.
Merci.
Beaucoup de clients.
Merci
beaucoup. Et puis j'espère qu'on se reverra pour une autre
avec
émission.
Avec grand plaisir. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous.
Autre radio, autre culture. À très bientôt. Autre radio, autre culture.